chapitre 14, Côte Rouge 4. Professeur I, puis-je vous poser une question? À l'époque, la recherche de civilisations extraterrestres était un domaine somme toute relativement marginal. Pourquoi le projet Côte Rouge bénéficiait-il d'un niveau de confidentialité si élevé? Demanda Wang Miao une fois que Yuan Ji eut terminé son récit. Pour tout te dire, cette question n'a cessé de se poser depuis la phase initiale du projet jusqu'à sa fin. Mais tu dois maintenant connaître la réponse. Nous ne pouvons aujourd'hui qu'être impressionnés par la prévoyance des décideurs de l'époque. Oui, ils ont vu les choses avant tout le monde, dit Wang Miao en hochant gravement la tête. Comment et à quel degré d'influence l'établissement d'un contact avec une civilisation extraterrestre allait-il impacter les sociétés humaines? C'était une question très sérieuse, mais qui n'était considérée systématiquement que depuis quelques années seulement. C'était désormais un sujet en vogue qui suscitait beaucoup d'études, dont les conclusions pouvaient parfois être déroutantes. Les projections idéalistes du passé avaient volé en éclats. Les spécialistes en étaient arrivés à la conclusion que, contrairement aux espoirs romantiques de la plupart des gens, il n'était pas souhaitable que la race humaine dans son ensemble entre en contact avec une civilisation extraterrestre. Au lieu d'unifier l'espèce humaine, ce contact aurait pour effet de la diviser et aggraverait plutôt qu'il ne réduirait les conflits internes entre les différentes civilisations de la Terre. En somme, les experts prévoyaient que, dès qu'un contact serait établi, les différences culturelles entre les peuples seraient exacerbées et que cette division au sein de l'espèce humaine mènerait à la catastrophe. La conclusion la plus effrayante était que ces impacts resteraient invariables, peu importe le degré ou la manière d'entrer en contact unidirectionnel ou bidirectionnel avec la civilisation extraterrestre, ou bien avec la forme ou le niveau d'évolution de cette civilisation. C'était l'idée défendue par le sociologue Bill Matthews du think tank de la Rand Corporation, dans son ouvrage intitulé « Un rideau de fer de 100 000 années-lumière, une étude sociologique de la recherche d'intelligence extraterrestre ». Il y proposait sa théorie du « contact comme symbole ». Selon lui, un contact avec une civilisation extraterrestre n'avait en fait qu'une fonction symbolique. Ce n'était qu'un élément déclencheur. Peu importe la nature du contact, l'effet serait identique. Même si, par exemple, ce contact ne faisait rien d'autre que prouver l'existence d'une intelligence extraterrestre dans l'univers, sans aucune autre information tangible, ce que Matthews appelait « contact élémentaire », ces effets seraient amplifiés par la psyché collective et la culture de masse. Et par conséquent, l'influence de ce contact élémentaire sur l'évolution de la civilisation humaine resterait immense. Si un pays ou une puissance politique venait à monopoliser ce contact, il serait synonyme d'avantages décisifs d'un point de vue tant économique que militaire. Qu'ont donné les résultats de Côte Rouge ? Demanda Wang Miao. Tu peux sûrement l'imaginer. Wang Miao hocha une nouvelle fois la tête. Il savait bien sûr que si le projet Côte Rouge avait été couronné de succès, le monde ne serait pas celui qu'il était aujourd'hui. Mais il lâcha tout de même une phrase qui se voulait réconfortante. « Nous ignorons encore aujourd'hui si le projet Côte Rouge est un échec, car les ondes radio envoyées par la base ne sont pas encore arrivées très loin dans l'univers. » Et Wen Ji secoua la tête. « Plus le signal s'éloigne, plus il s'affaiblit. Il existe de nombreuses perturbations dans l'espace. La probabilité pour qu'il soit reçu par une civilisation extraterrestre est très mince. » Des chercheurs ont montré que, si nous souhaitions réussir une transmission radio dans l'espace, la puissance devait être équivalente au flux énergétique d'une étoile de taille moyenne. L'astrophysicien soviétique Nikolaï Kardachev a jadis proposé de classer les civilisations extraterrestres en trois types, en fonction de l'énergie qu'elles sont capables de mobiliser pour une communication à l'échelle interstellaire. Les civilisations de type 1 peuvent rassembler une énergie équivalente à l'ensemble de l'énergie reçue par leur planète, provenant de l'étoile mère. Cette production était à l'époque évaluée par Kardachev à une fourchette entre 10 puissance 5 et 10 puissance 16 watts. Les civilisations de type 2 utiliseraient l'équivalent de la production énergétique d'une étoile classique, soit environ 10 puissance 26 watts. Enfin, les civilisations de type 3 seraient capables d'utiliser une énergie équivalente à 10 puissance 36 watts, correspondant à la production énergétique d'une galaxie. La planète Terre se trouverait actuellement à 0,7 sur l'échelle de Kardashev, soit même pas une civilisation de type 1. À titre de comparaison, l'énergie mobilisée pour les transmissions de côte rouge ne correspondait qu'à 1/10 de millionième de la production énergétique terrestre. Nos messages étaient des bourdonnements de moustiques dans l'immensité du ciel. Personne n'a pu les entendre. Si les civilisations de type 2 et 3 imaginées par Kardashev existaient, nous pourrions entendre leur voix. En plus de 20 ans passés à Côte Rouge, nous n'avons jamais rien entendu. Dans ce cas, est-ce que Côte Rouge et tous les programmes occidentaux de recherche d'une intelligence extraterrestre ne prouvent pas que la Terre est en fin de compte la seule planète de l'univers à abriter une forme de vie intelligente? Iwenji poussa un léger soupir. En théorie, c'est une conclusion que nous ne pourrons jamais tirer avec certitude. Mais pour moi ainsi que pour l'ensemble de ceux qui ont jadis travaillé à Côte Rouge, il n'y a aucun doute. Quel dommage que la base ait été démantelée. Puisqu'elle était déjà construite, on aurait dû continuer à la faire fonctionner. C'était une grande cause. La fermeture de Côte Rouge s'est faite progressivement. Un grand projet de rénovation a été entrepris dans les années 1980, principalement pour moderniser les systèmes informatiques des unités de transmission et de surveillance. Le système de transmission a été automatisé et l'unité de surveillance a été équipée de 2 mini-ordinateurs IBM. Cette rénovation a considérablement amélioré la capacité du traitement des données. Nous pouvions désormais surveiller simultanément 40 000 canaux différents. Mais plus tard, les dirigeants ont pris conscience de l'extrême difficulté des programmes de recherche de civilisations extraterrestres et ils ont progressivement perdu leur enthousiasme pour le projet. Le premier changement notable a été la réduction du degré de confidentialité de la base. La raison invoquée était que le niveau de sécurité de Côte Rouge était surestimé. L'équipe de sécurité sur place a donc été réduite. D'une compagnie, elle est passée à une escouade, puis plus tard, il n'est finalement resté qu'un petit groupe de 5 soldats en sentinelle. Après la modernisation, même si les employés de la base appartenaient toujours au 2e corps d'artillerie, la gestion des recherches scientifiques de Côte Rouge a été confiée à l'Institut d'astronomie de l'Académie des sciences. La base s'est vue confier des projets scientifiques n'étant pas liés à la recherche de civilisations extraterrestres. J'imagine que beaucoup de vos travaux scientifiques ont été réalisés à cette époque-là. Au début, le système de Côte Rouge a pris en charge des projets d'études radioastronomiques, car la base possédait à l'époque le plus grand radiotélescope de Chine. Mais par la suite, avec la construction d'autres bases d'observation radioastronomique, les recherches académiques de Côte Rouge se sont concentrées sur l'observation et l'analyse de l'activité électromagnétique du Soleil. On y a même installé un télescope solaire. Les modèles mathématiques de l'activité électromagnétique solaire, que nous avons contribué à établir, étaient pionniers à l'époque et ils ont trouvé de nombreuses applications pratiques. Ces résultats postérieurs compensaient enfin l'énorme budget investi dans Côte Rouge. Le mérite en revenait beaucoup au commissaire politique Lay, bien qu'il y trouvât naturellement son compte. Il avait pris conscience qu'être un cadre politique au sein d'une unité technique n'était plus un statut aussi privilégié. Il avait fait des études d'astrophysique avant de s'engager dans l'armée et il s'imaginait retourner dans le monde scientifique. Tous les projets ultérieurs de Côte Rouge ne concernant pas la recherche de civilisations extraterrestres sont à mettre à son crédit. Était-il si facile pour lui de retourner à la recherche scientifique après tant d'années? Vous n'étiez pas encore réhabilité politiquement à l'époque, n'est-ce pas? Je suis plutôt porté à croire qu'il a signé de son nom la plupart de vos résultats de recherche. Je me trompe? Iwenji eut un sourire bienveillant. Sans le vieux Leigh, Côte Rouge aurait été fermée beaucoup plus tôt. Quand les activités scientifiques de la base sont passées sous la tutelle d'une institution civile, l'armée a abandonné le projet. L'Académie des sciences n'est pas arrivée à maintenir le budget nécessaire pour les frais de fonctionnement de la base, et elle a été fermée. C'est sur cette phrase que Iwenji acheva son récit sur son expérience au sein de Côte Rouge. Wang Miao ne lui en demanda pas plus. Le reste, Sha Ruishan le lui avait raconté dans l'observatoire astronomique de Miyun. La quatrième année après son entrée à Côte Rouge, elle avait fondé une famille avec Yang Wenning. Tout s'était fait de façon naturelle, banale. Plus tard, Yang Wenning et Lazy Cheng avaient perdu la vie dans un accident. Yang Dong était né après la mort de son père. Mère et fille étaient restées sur le pic du radar jusqu'au début des années 1980, avant la fermeture définitive de Côte Rouge. Iwenji avait par la suite enseigné l'astrophysique dans son université d'origine, jusqu'à sa retraite.
La recherche de civilisations extraterrestres n'est pas une discipline ordinaire. Elle exerce une influence considérable sur la vie des chercheurs, dit Iwenji en faisant traîner ses dernières syllabes, comme si elle s'apprêtait à lire un conte pour enfants. La nuit, lorsque tout était calme, on pouvait entendre dans nos casques les bruits sans vie de l'univers. Ils étaient faibles, mais paraissaient plus immuables et plus éternels que les étoiles. Parfois, j'avais au contraire l'impression qu'ils ressemblaient à celui du vent glacial qui soufflait sans faiblir sur les montagnes du Grand Khingan. J'avais si froid, et cette solitude, je ne saurais la décrire. Quelquefois, après le travail, je levais les yeux au ciel en m'imaginant que le tapis d'étoiles était un désert scintillant et que j'étais une orpheline abandonnée en plein milieu de ce désert. Comme je te l'ai déjà dit, j'avais le sentiment que la présence de la vie sur Terre était le plus grand de tous les hasards de l'univers, que le cosmos était un palais vide, habité par une seule petite fourmi, l'espèce humaine. Cette idée m'a accompagné toute ma vie. Je me dis parfois que la vie est précieuse, qu'elle est ce qu'il y a de plus important au monde. Mais d'autres fois, je me dis que l'humain est si minuscule qu'il ne vaut finalement pas grand-chose. Toujours est-il que j'ai vieilli jour après jour et sans y prendre garde, toujours empli de cette sensation étrange. Wang Miao voulut glisser quelques mots de réconfort à cette vieille femme qui avait consacré sa vie à cette formidable cause solitaire, mais rien ne sortit de sa bouche, hormis une phrase qui le plongea lui-même dans la solitude. « Professeur Yi, peut-être qu'un jour je pourrai vous emmener faire un tour sur l'ancien site de Côte Rouge. » Iwenji secoua lentement la tête. « Miao, nous sommes différents. Toi et moi. J'ai maintenant un certain âge et je ne suis plus en très bonne santé. Il m'est difficile de prévoir l'avenir. Je vis au jour le jour. »
En voyant ses cheveux blancs onduler sur son visage, Wang Miao sut qu'elle pensait de nouveau à sa fille.